Bonjour et bienvenue dans l'Info s'éclaire. Jusqu'à 10 000 tonnes de déchets dans Paris. La grève des éboueurs aura eu le mérite de nous ouvrir les yeux sur la quantité incroyable de déchets que nous produisons. Question, quels sont ces détritus? En produit-on toujours plus? Et que deviennent-ils? L'Info s'éclaire est intitulé « Quand nos poubelles débordent ». Nos invités, Diane Beaumenet-Johannet, vous êtes responsable plaidoyer et campagne sur les déchets aquatiques pour l'association Surfrider. Frédéric Danhé, vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement. Votre livre « Rencontre avec des écolos remarquables », c'est chez Delachaux et Niesley. Et Elder de Oliveira, vous êtes directeur de l'Observatoire régional des déchets en Île-de-France à l'Institut Paris Région. Bonjour. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, avec la grève des éboueurs, on a dépassé les 10 000 tonnes de déchets non ramassés dans Paris, alors même si depuis la collecte, fort heureusement, a repris. Mais c'est vrai que les habitants, les Parisiens, ont réalisé sidéré l'ampleur des déchets que nous produisons chaque jour. Des images de Sandrine Aramon, Aurélia Chopin et Virginie Travers.
Elles s'entassent depuis le 6 mars. Les poubelles débordent dans les rues de la capitale, bien souvent éventrées. Par endroits, seule la porte d'entrée des immeubles est épargnée par les amas d'ordures à l'odeur pestilentielle.
D'un point de vue sanitaire, c'est quand même assez dangereux, je pense.
Ça gêne tout le monde. Comme c'est agréable de voir ça. Ça gêne pas? C'est joli? C'est pas des fleurs, hein?
Des murs d'ordures pour horizon, comme ici Porte de Saint-Cloud, des agréments visuels, olfactifs. Les riverains saturent.
Il y a des souris, des rats, l'odeur, on ne peut plus ouvrir les fenêtres, on ne peut plus s'oxygéner, rien du tout.
Il y en a marre de la mer et des ordures.
Elder de Oliveira, est-ce qu'on peut dire que l'un des aspects positifs de ce non-ramassage de déchets, malgré les nuisances, c'est qu'on a pu prendre conscience quand même de l'ampleur de ce qu'on produit? Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément face à nous, là. Et là, on l'avait face à nous.
C'est ça, mais c'est pas la première fois qu'il y a des grèves et beaucoup de déchets dans les rues, mais c'est la première fois qu'on parle de cette prise de conscience. Peut-être que culturellement aussi, on est plus réceptif à cette question-là qu'avant.
Alors, quand même, les chiffres sont effarants. Nous produisons en France chaque année, Frédéric Danhé, 583 kilos par an et par habitant. Ça fait qu'on produit, on va dire quoi, quasiment 10 fois notre poids en déchets en un an. Mais c'est quoi ces déchets?
On est au deuxième rang européen. C'est quoi les déchets?
Deuxième rang européen, oui.
C'est quoi ces déchets? C'est ce que l'on mange, c'est nos emballages pour l'essentiel. Mais ça, c'est la partie...
Les emballages?
Les emballages, oui, beaucoup. Mais c'est 10% de la production totale de déchets en France. L'essentiel des déchets, 60-70%, je parle sous votre contrôle, c'est les déchets du BTP, ceux qu'on retrouve aux abords des forêts. Vous savez, parce que les maçons, ils n'ont pas le temps, à cause des bouchons, d'aller dans la déchetterie, on balance tout aux abords des forêts. Donc ce serait bien que les gens qui sont choqués là aillent en forêt, non pas le week-end, mais en semaine, voir ce qui se passe aux abords des forêts.
Donc ça n'est que le sommet de l'iceberg, ces déchets qui sont dans nos rues.
L'essentiel des déchets, c'est le BTP. Il y a 20% c'est l'industrie, et le reste, 9% je crois, c'est nos déchets ménagers. Sur nos déchets ménagers, il doit y avoir 40% qui sont dans la poubelle non triée, la poubelle verte ou marron, et pour laquelle il y a entre 30 et 50% de refus de tri. Enfin, tout ça pour vous dire que le tri, ça ne marche pas si bien que ça.
Alors justement, Diane Beaumenet-Johannet, que deviennent-ils ces déchets? On se rassure en disant que la plupart sont triés, recyclés, donc ils ont une nouvelle vie, et que l'autre moitié est valorisée, comme on dit, c'est-à-dire que tout ça n'est pas enfoui pour des millénaires dans le sous-sol.
Alors non, il y a quand même une partie de nos déchets qui partent en tri pour être recyclés, mais sur ces déchets-là, il n'y en a qu'une petite partie qui est effectivement recyclée, notamment sur les plastiques ou sur le verre et papier carton. Pour le reste, ils partent soit en incinération, soit en enfouissement, parce que ça existe encore aujourd'hui. Et il y a quand même une partie qui finit aussi dans la mer. Et avoir ces exemples en fait, de déchets dans les rues, ça montre aussi que si rien n'est fait, si c'est mal collecté, si ce n'est pas collecté du tout, en fait, tout simplement, avec le vent et la pluie, ça va ruisseler jusque dans les cours d'eau, et les cours d'eau dans la mer. Et donc, sur Paris, ça part dans la Seine, et à Marseille, ça part directement dans la Méditerranée. Donc, on a quand même un gros gisement de déchets qui arrive dans l'océan. Et sur ces déchets, il y a effectivement des déchets du bâtiment. Il y a aussi beaucoup de plastique. 80 à 90% des déchets qu'on retrouve en mer, c'est du plastique. Et ce plastique ne disparaît jamais, puisqu'il va se dégrader en micro et nanoparticules de plastique. et intégrer la chaîne alimentaire. Donc en fait, nos déchets, ils deviennent juste plus petits et ils viennent finalement contaminer les écosystèmes.
Elder de Oliveira, vous disiez tout à l'heure, c'est la première fois, il y a toujours eu des grèves des boueurs, mais c'est la première fois qu'on est ému, enfin on est interloqué par l'ensemble de nos déchets. Est-ce que vous diriez quand même qu'il y a une prise de conscience même de mieux faire avec ces déchets et que les Français, les particuliers, sont très volontaires en matière de recyclage, on fait plus attention qu'avant? Est-ce que c'est vrai? Et d'ailleurs, qui fait plus attention qu'avant? Est-ce que ce sont des Français à la fibre écologique ou bien pas forcément?
Alors ça, je ne sais pas qui exactement, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, on a beaucoup d'associations qui font des actions, des start-up qui se montent pour récupérer les déchets. Et donc, il y a une effervescence, ça c'est sûr. Mais après, quand on regarde les chiffres au fond, ça ne s'améliore pas. On a toujours autant de déchets.
Mais moi, je parlais du recyclage. Pourquoi est-ce que vous disiez qu'il y a beaucoup de refus de tri? Ça veut dire qu'on recycle mal. Pourquoi recycle-t-on mal? Est-ce que c'est parce qu'on y met de la mauvaise volonté ou est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué?
Alors, c'est vrai qu'on recycle très mal. On arrive à capter que 10% de certains flux, 30% en moyenne, et même des choses qui sont simples, puisque vous vous demandez si c'est simple. Le verre, les bouteilles en verre, c'est très simple à capter. Tout le monde sait ce que c'est qu'une bouteille en verre. Tout le monde sait que ça se recycle. On peut le garder chez soi sans problème. Ça ne pourrit pas, etc. Et pourtant, en Ile-de-France, par exemple, on ne capte que 6 bouteilles sur 10. C'est-à-dire qu'il y a 4 bouteilles sur 10 qui partent dans les incinérateurs, puisqu'en Ile-de-France, les déchets sont essentiellement incinérés pour les déchets ménagers.
Donc, c'est une bouteille, une bouteille qu'on va mettre dans la poubelle verte, quoi, comme ça, par négligence.
Exactement, dans la poubelle du résiduel, parce qu'elle n'est pas verte partout. Mais voilà. Et donc, pourtant, c'est simple. Et on n'arrive pas à les capter. Et quand c'est un peu plus compliqué, alors le carton, ce n'est pas compliqué, mais alors là, c'est qu'un tiers qu'on arrive à capter. Et quand c'est un peu plus compliqué, comme les plastiques, parce qu'il y a plusieurs types de résines, il y a eu des consignes un peu contradictoires, même si c'est en
d'ailleurs, ça s'est éclairci, le yaourt, on peut le mettre, alors on le met dans la poubelle
on
verte.
Met tout
dans
maintenant. C'est très simple, on met tout.
Ce n'était pas toujours été le cas.
Oui, je sais, je me suis pris la tête avec mes enfants, maintenant on met tout dans la poubelle jaune.
Est-ce que quand même, Frédéric Denré, on peut dire qu'on est tous, on brandit tous la fibre écolo, mais quand on est devant sa poubelle, là, on devient des Gaulois réfractaires, pour employer l'expression connue.
Encore quand c'est chez nous, ça va, mais il suffit de voir les poubelles censées être de tri. Il y a deux poubelles sur les quais du métro, du RER et dans toutes les gares. C'est n'importe quoi. Personne ne trie, personne ne fait attention. Et puis derrière, ça partira à l'incinération et rien ne sera trié.
Est-ce que c'est le mauvais exemple aussi du voisin? Quand on voit que c'est n'importe quoi, on se dit « bon, foutu pour foutu ». Je fais comme tout le monde.
Il suffit de laisser ça, ce qui m'est arrivé encore mardi. Hein, j'ai mis ma poubelle verte, je l'ai laissée, j'ai oublié de la descendre. Et j'ai retrouvé des emballages et des bouteilles en verre dedans. Les gens en profitent. Voilà, c'est comme ça, c'est juste la nature humaine. C'est compliqué. Alors, faut aussi se sortir de l'idée qu'on pourra trier. C'est un fantasme. Hein, trier 100%, recycler à 100%, réutiliser à 100%, ça n'existe pas. C'est le syndrome de Wall-E, qui est sans doute le meilleur film de Pixar qu'on a jamais fait sur l'écologie. C'est une accumulation permanente. On ne peut qu'essayer de maintenir à mon idée, au même niveau année après année. Je ne pense pas que ça puisse baisser parce que la nature humaine, parce que la complexité des emballages, la complexité de notre mode de vie, la multiplicité des matériaux qui exige une multiplicité de filières qui coûtent cher.
Ce chiffre de 583 kilos par an et par habitant, il continue d'augmenter ou il est stable ou il baisse ?
Alors, chez nous, il augmente depuis 2015, à nouveau, même s'il y a eu un trou d'air, si j'ose dire, en 2020 avec le Covid. Voilà. Mais ce n'est pas difficile partout. Là, on est vraiment en milieu urbain dense. On a cette difficulté que vous décrivez. Mais en milieu rural, notamment avec la tarification incitative qui fait qu'on paye en fonction de ce qu'on produit comme déchets, là, on arrive à trier beaucoup mieux ces déchets. Les collectivités, même en Ile-de-France, en Essonne, par exemple, dans le sud de l'Essonne, ils ont des très bonnes performances.
Les retraités trient de façon bien plus consciencieuse que les jeunes urbains, qu'on imagine pourtant volontiers écolos. Dans le profil des bons recycleurs, ce sont...
Pas mon père.
Ah bon ? Pas votre père. Diane Bonnet-Johanet, est-ce que vous disiez tout à l'heure, donc il y a une partie qui est recyclée, il y a une partie qui est enfouie. On fouille, alors on se demande pourquoi on ne brûle pas tout. Et quand on brûle, à Paris par exemple, la chaleur est récupérée ici pour faire de la climatisation. C'est pas perdu, même si ça dégage du CO2, Est-ce que j'ai bon là dans tout ce que je dis?
Alors oui, il y a une partie, c'est ce qu'on appelle la valorisation énergétique, qui va être brûlée pour pouvoir récupérer de l'énergie. Mais on va dire qu'il y a quand même des résidus et tout traitement des déchets a un impact sur l'environnement. Même le recyclage, aujourd'hui, même si tous les Français faisaient le meilleur geste possible de tri, derrière, on n'a pas la capacité technique, on n'a pas les installations pour pouvoir recycler tout ce qui va, entre guillemets, dans la poubelle jaune, parce qu'on produit beaucoup trop. On produit trop de produits, trop de déchets, trop d'emballages, et à la fin, on n'a pas du tout la capacité de pouvoir les gérer. Donc effectivement, il y a une partie qui va être captée pour être recyclée, et sur ce qui est recyclé, tout n'est pas recyclable, notamment sur les plastiques. Il n'y a vraiment qu'une petite partie des plastiques qui sont utilisés au quotidien qui vont être recyclés, notamment les bouteilles, les flacons. Mais tout le reste, en fait, ça ne l'est pas. Et de l'autre côté, on a quand même toujours cet enfouissement et cette incinération qui va être utilisée. Mais l'incinération produit aussi des résidus qui ont un impact sur l'environnement et c'est très énergivore aussi. Donc en fait, il faut finalement repenser cette société de consommation et réduire nos déchets, en produire le moins possible et aller vers d'autres alternatives qui vont être le réemploi, la réparation et in fine le recyclage pour ne plus avoir d'enfouissement.
Frédéric Dan, les poubelles jaunes, elles sont souvent pleines. Et quand elles sont souvent pleines, on remarque que c'est des cartons. Alors ça, c'est la conséquence du e-commerce. Mais alors, pour le coup, est-ce que ça pose un problème ou est-ce que non, le carton se recycle très bien et de ce point de vue-là,
le carton se recycle, je crois que c'est 30%, quelque chose comme ça, du carton qui est recyclé. Mais le carton, c'est un gros impact carbone. Ça nécessite de l'énergie, même pour le recyclage. L'usage du carton dans les emballages a explosé avec le e-commerce, qui a explosé avec le confinement. Et il y a une étude qui va être publiée par l'ADEME là, au mois d'avril, qui montre que le fait de suremballer entraîne une perte de volume dans les camions de 10 à 30%. Le fait de suremballer. Donc, vous commandez en ligne, vous avez...
On a une énorme boîte pour une
exactement, vous perdez 10 à 30% de volume, donc vous avez 10 à 30% en moins de colis dans un camion, donc forcément, les émissions de CO2 et la consommation d'énergie par colis transporté et par kilomètre parcouru est plus importante. C'est un des deux facteurs qui font que la livraison en ligne peut avoir un impact carbone très important, et un de ces deux facteurs, c'est bien le suremballage. C'est étonnant, moi j'y pensais pas, et ça fait exploser, doubler, voire tripler la facture énergétique d'un colis transporté.
Alors, vous parliez de nos modes de consommation qui vont peut-être dans le mauvais sens. C'est vrai qu'autrefois, pour faire du café, on avait le filtre. Maintenant, on a la dosette. Un chiffre question quiz. Combien de dosettes ont été utilisées l'an dernier dans le monde? Nous sommes 8 milliards. Il y a eu 20 milliards de dosettes de café en aluminium. Évidemment, très peu de ces dosettes café sont recyclées. Sujet de Gian Benzina et Virginie Travers.
Elle est toujours invitée à la table des buveurs de café. La capsule, si simple à utiliser, est presque devenue un geste automatique d'un des rendez-vous du quotidien. Quant à trouver par quoi la remplacer, elle qui génère tant de déchets, encore faut-il en avoir l'idée.
J'utilise ça, quoi. Je me pose pas de questions. Hein.
Au moment où je me fais un café, je pense pas à garder la capsule pour la ramener. Bien que ce soit un geste qui devrait rentrer dans les mœurs.
S'il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui sortent, etc., je vais m'y intéresser. Je vais pas rester dans mes habitudes parce que le changement, c'est bien.
Solange Descoques est une grande buveuse de café, 3 à 4 par jour. Depuis 2 ans, elle a opté pour un autre type de capsule.
Elle est réutilisable. Et donc, j'arrête de jeter des montagnes et des montagnes de capsules qui ne sont jamais recyclées.
Les innovations comme celle-ci se multiplient. Capsules avec bouchons en inox. Capsules jetables mais biodégradables, fabriquées à partir de granulés de maïs. Chez ce fabricant, pas de capsule, mais une boule de café enveloppée dans une algue. Il faut en revanche acheter une machine spécifique. Résultat, du côté des poids lourds du marché, c'est à qui proposera la capsule avec le moins d'impact carbone. Compostable ou en tissu. Mais pour l'organisme Zero Waste, certaines mentions sont ambiguës.
Ici, c'est écrit « Ensemble recyclons, capsule en aluminium recyclable selon les consignes locales ». Et c'est vraiment cette petite phrase qui fait toute la différence. C'est-à-dire que, est-ce que moi, localement, sur mon territoire, c'est trié ou pas? On ne peut pas avoir la garantie.
Autre exemple, cette capsule est dite recyclable, mais surprise, ni en France, ni en Belgique.
On a plus le sentiment que les marges au jeu de la communication. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de mettre en avant des arguments de recyclage, mais au final, derrière, ça ne suit pas vraiment.
Alors pour sortir de l'usage unique, peut-être que la solution est dans la bonne vieille cafetière, à user sans modération.
Frédéric Danhé, les marques qui font ou qui mettent en avant un argument écolo pour mieux vous vendre derrière, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est ça?
Ouais, le greenwashing ou la politique.
C'est devenu un filon commercial, ça, de dire moi je suis écolo, achetez-moi.
Oui, oui, ça marche. Bon, après, ça marche plus très longtemps. On est vite dénoncé sur les réseaux sociaux par les ONG. Donc, voilà. Mais la conclusion de votre reportage, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, voilà, vous ne voulez pas polluer la planète. Vous ne voulez pas recycler l'aluminium qui, de toute façon, ne sera jamais recyclé parce qu'il n'est pas vu par les trieurs optiques dans les filières de tri. Bah oui, vous faites du café filtre, vous achetez une cafetière qui vous fait du café avec du grain, par exemple, puis ça vous coûtera entre 20 et entre 8 et 40 fois moins cher au kilo. Bon, c'est pas facile en entreprise, mais bah moi, ça me dépasse un peu. C'est vraiment le symbole d'une société qui veut plus attendre. Je veux un café, je l'obtiens tout de suite. Je veux à manger, j'appelle mon livreur, comme au 19e, on sonnait la bonne pour qu'elle vous amène un plateau repas. Je veux un colis, je l'achète tout de suite. Bah, il suffit d'attendre un peu, c'est pas toujours possible, mais... Mais là, sur l'aluminium, c'est dingue quand même que la maison, Nespresso, qui a inventé ce concept, n'avait pas pensé du tout pendant, et n'y a pas pensé du tout pendant des années, que son aluminium ne serait jamais trié. Jamais. Alors qu'on savait, en fait, c'est la taille qui compte. Ça, comme les bouchons des gourdes de compote pour les enfants, ça n'est jamais trié parce que c'est trop petit, ça ne se voit pas par les trieurs optiques. Mais on le savait, ça, déjà.
Les compotes. L'air de Oliveira, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de notre mode de vie, en ce sens que, on est de plus en plus seul, et donc on a de plus en plus de portions individuelles. Et comme vous le disiez, autrefois, on avait le gros pot familial, maintenant, on a les petites barquettes individuelles, donc il y a peu de matière, beaucoup d'emballage, et même, on a, finalement, c'est quoi ces dosettes? C'est une barquette individuelle de café, quoi. Nous sommes de plus en plus individualistes et les producteurs, les géants de l'agroalimentaire, satisfont à nos besoins.
Les gros pots, ils restent aussi au fond des frigos avec des restes alimentaires. C'est du gaspillage alimentaire.
Ah voilà. Donc, vous allez dans mon sens en plus.
Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on met sur le marché des produits dont on ne sait pas comment les récupérer et les gérer derrière. C'est ça le scandale. On parle des compotes, on parle des dosettes, mais il y a toutes sortes d'emballages qui sont mis sur le marché pour des questions d'innovation. Et derrière, il n'y a aucun dispositif pour le récupérer, le recycler, le traiter. Et il y a une vraie irresponsabilité de ceux qui mettent sur le marché tous ces produits.
Alors, Danone a annoncé que parce qu'ils avaient badoit rouge et badoit verte, sauf que ce sont des badoits en couleur. Et quand un plastique est coloré, il se recycle mal. Du coup, ils abandonnent, sous la pression des ONG d'ailleurs, badoit rouge et badoit vert. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, là aussi, au niveau des producteurs, qui va dans le bon sens?
Je crois que Danone est sans doute une des sociétés qui met le plus de plastique sur le marché.
On a le hit parade des plus grands. Attendez, toutes mes illustrations que j'ai préparées, on va voir les plus gros pollueurs de la planète. Alors évidemment, ce sont les géants de l'agroalimentaire. Un, Coca-Cola, 2, Pepsi-Cola, 3, Unilever, 4, Nestlé, donc ce sont les fameuses dosettes dont on vient de parler, et 5, Danone. Danone exporte dans le monde entier, donc ces plastiques, on les retrouve dans le monde entier.
Voilà, et ces entreprises comptent sur les citoyens, leur civisme pour trier, et sur les collectivités pour se débrouiller avec ça. Et il y a une vraie irresponsabilité de leur part. On ne devrait pas permettre de mettre sur le marché des produits dont on ne sait pas après traiter les déchets.
Bon. Diane, ça ne... Beaumenet, non, c'est la responsabilité des producteurs, mais vous me l'avez enlevé de la bouche. J'allais dire, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas irresponsables après tout? Quand on nous donne quelque chose, on peut se comporter de façon non égoïste, quoi, en pensant un petit peu à l'environnement, non?
Alors, effectivement, on peut, en tant que consommateur, devenir consomme-acteur, faire des choix de consommation engagés. Si on est informé, correctement informé, et on l'a vu là à l'instant, il y a une vraie problématique de marketing qui vient tromper le consommateur en faisant croire avec du verre partout, des feuillages, que c'est génial, que c'est des innovations. Alors qu'en fait, c'est tout aussi polluant, qu'on a juste changé l'étiquette. Donc, il y a un problème d'information du consommateur. Et une fois que le consommateur est informé, il faut aussi qu'il ait accès à ces alternatives. Et effectivement, si les producteurs ne mettent pas en place donc tout ce qui va être éco-conception, c'est-à-dire penser, quand on met un produit sur le marché, à sa fin de vie et à ce que la filière, notamment, existe en termes de réparation, de réemploi ou de recyclage, en fait, on a des produits qui sont mis sur le marché et derrière qu'on n'est pas capable de gérer. Donc, il y a aussi cet enjeu de responsabilité des producteurs. Et aujourd'hui, les efforts qui sont faits, ils sont aussi faits sous la pression législative parce qu'on a un cadre réglementaire qui évolue énormément et qui met la pression avec des objectifs de recyclage, de réduction à l'échelon national, européen et aujourd'hui peut-être international.
Alors, Frédéric Denré, vous le disiez tout à l'heure, finalement, cette dosette, revenons au café filtre. Il y a 20 ans, on buvait de ça, on n'était pas mort. Et de même, ce qu'on a présenté comme une innovation, la bouteille plastique ou la bouteille autrefois, quand on était petit, il y avait des bouteilles consignes. Comment a-t-on sacrifié les bouteilles en consigne sur l'autel de la modernité, entre guillemets ? On a retrouvé dans les archives de l'INA de France Télévisions ce petit sujet qui vous a été concocté sur la fin de la consigne par Tariq Kaldi.
Bouteille en verre utilisée, puis rendue contre quelques francs, puis réutilisée, et ce jusqu'à 40 fois. C'était le principe du verre consigné. Mais avec les années 60, débute une nouvelle ère, celle du prêt-à-consommer et à jeter.
Expéditif et tellement reposant.
L'emballage perdu gagne les ménages. En verre ou en plastique, il a conquis les fabricants de bouteilles.
Je ne crois pas qu'on puisse imaginer de revenir tous azimuts à la consignation.
La consigne snobée par le progrès et par les consommateurs.
Moi, je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps.
Le verre perdu, lui, est recyclé, donc récupéré, broyé, fondu pour devenir une nouvelle bouteille. Le procédé est 15 fois plus énergivore que la consigne et le nettoyage qui va avec.
Frédéric, non, c'est incroyable comment on s'est trompé. Hein. Moi, je suis pour le verre perdu. C'était la modernité, en fait. Le plastique à usage unique ou le verre qu'on croit recyclé.
La modernité pour deux raisons. La première, c'est que le plastique, il est neutre pour les aliments comme le verre. Et la deuxième raison, c'est qu'il est beaucoup moins lourd, donc beaucoup plus facile à transporter. Après, si on utilise autant de plastique dans les bouteilles, c'est qu'on boit de l'eau minérale en France.
48% des Français consomment de l'eau en bouteille chaque jour.
Alors qu'il y a de l'eau du robinet. Enfin, moi, ça me dépasse un peu. Alors, vous allez me dire, il y a des eaux avec des bulles. On peut aussi faire de l'eau à bulles avec des appareils qui font des bulles dans l'eau maintenant. Alors, la consigne revient. Les fabricants de bouteilles, les Danone, Nestlé et compagnie, essayent de mettre dans la tête des élus de faire la consigne. Ça paraît très bien. C'était prévu dans la loi AGEC au 1er janvier 2022. Ça a été supprimé parce que des villes comme Paris se sont rendues compte qu'il aurait fallu mettre en place 6000 points de consigne, que ces 6000 points de consigne auraient généré des déchets, auraient généré des risques de vol de l'argent qu'il y aurait dedans, et puis aurait peut-être généré des filières de recyclage par des clandestins, notamment. Ils ont eu peur de ça, de l'insécurité liée à ça. Puis surtout d'un point de vue économique, si vous mettez en place un recyclage du plastique, ça ne profitera qu'aux fabricants et ça risque de déstabiliser les filières de recyclage qui coûtent très cher, que l'on paye avec nos taxes, nos impôts, etc.
Par les municipalités.
Néanmoins, moi je l'entends, il y a un salon qui se tient en ce moment à Paris, là, transport et logistique. Il y a plein de fabricants et de distributeurs qui sont en train de réfléchir pour le e-commerce à des emballages consignés. C'est-à-dire, vous commandez votre produit, vous avez un emballage, vous êtes tenu, sinon ça vous coûte un peu cher, de le plier, de le coller et de le renvoyer par la poste au distributeur.
Elder de Oliveira, à l'instant, Frédéric Denré nous disait, c'est vrai qu'il y a de l'eau du robinet qui est très bonne, mais si on regarde au niveau planétaire, on sait que dans beaucoup de pays en développement, l'eau du robinet n'est pas potable, et on va regarder la liste des plus grands pays consommateurs de bouteilles plastiques, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout la France. Hein. Il y a des pays comme la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, le Mexique. Il y a eu, pour l'année 2021, 600 milliards de bouteilles plastiques dans le monde. Et quand on voit ce classement, on se dit waouh, la France, c'est un tout petit problème par rapport à.
Oui, mais c'est le nôtre.
Oui, c'est le nôtre.
Et il y a eu une étude de l'ONU au niveau mondial qui est sortie il y a 15 jours, hein, qui dit que l'eau en bouteille est souvent de moins bonne qualité que l'eau, que l'eau du robinet.
France.
Non, pas en France, au niveau international.
En plus, il y a des arnaques dans l'eau.
On a les mêmes contrôles, donc c'est relativement identique. Ceci dit, prenez à l'aveugle, goûtez une eau de Paris et une eau d'Evian, je ne suis pas sûr que vous fassiez la différence. Hein. J'ai déjà fait faire le test, c'est impossible de voir la différence entre les deux. Donc voilà, au niveau mondial, l'eau en bouteille, l'eau plastique, si j'ose dire, n'est pas meilleure que l'eau du robinet.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces 600 milliards de bouteilles de plastique là ? On se laisse submerger
Ah ben, c'est clair qu'aujourd'hui, on se laisse submerger puisqu'ils atterrissent dans la mer. Et dans votre reportage, on voyait bien que Antoine Riboud est
C'était le fondateur de Danone.
Fondateur de Danone, de BSN. C'est lui qui a convaincu le gouvernement en 92 pour la deuxième grande loi sur les déchets en France d'arrêter avec la consigne pour mettre en place ce dispositif qui est beaucoup plus simple puisqu'il de tri que ce qu'on a aujourd'hui. Il est plus simple puisqu'il repose sur les gens, sur la bonne volonté de vous, de moi, pour trier les déchets. Alors qu'avant, on avait un dispositif incitatif.
Avant, c'était Danone qui était un peu responsable.
Et donc, il a déchargé toute sa responsabilité en termes de déchets sur les citoyens.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir à la consigne, selon vous ? On va arrêter le plastique ? Je ne sais pas.
Oui.
Diane Beaumenet-Joannet. Oui.
Nous, on est pour le retour de la consigne, évidemment. Après, il y a deux types de consignes. Il y a une consigne pour recyclage, ce qui est plutôt porté par justement les metteurs en marché, pour pouvoir capter plus facilement le flux de plastique et le réintégrer. Et il y a la consigne pour réemploi, donc celle qui était dans le reportage, qui est pour nous la solution, le réemploi, pour pouvoir réduire
les déchets. On lave un peu la bouteille, comme on faisait dans les années 70, hein, et on la re-remplit.
Ouais, on la re-remplit, et en fait, elle peut être aussi restérilisée, elle repasse en fait tout le cycle. Mais pour ça, évidemment, il faut repenser tout le modèle de production, les flux logistiques, les modes de consommation, et rendre la consigne facile et accessible pour tous. Parce que, évidemment, les solutions en milieu urbain ou rural ne vont pas être les mêmes. Et en fonction des grands ou des petits commerces, ça ne va pas être les mêmes non plus. Mais il y a justement actuellement une consultation publique menée par le gouvernement pour décider quel modèle de consigne on veut remettre en place en France pour recyclage et ou pour réemploi. Alors qu'il y a d'autres pays voisins, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui n'ont jamais arrêté la consigne et qui continuent en fait d'avoir ce geste de retour de la bouteille. Et on sait que sur le verre notamment.
Quel type de bouteille ? Parce que
toutes les bouteilles. Ça peut être toutes les bouteilles. On peut commencer par les bouteilles de boisson. Oui, ouais. Tout à fait. Il faut évidemment des emballages standardisés pour pouvoir permettre le retour et notamment le partage, la mutualisation en tout cas des flux logistiques de laveuse, etc. et de redistribution des bouteilles. Donc il faut standardiser. Ce à quoi les producteurs ne sont pas forcément toujours pour, parce qu'ils aiment bien avoir leurs produits typiques en fonction de leur marque. Mais la standardisation va permettre en fait la réduction des emballages à la source et le remploi et finalement la réduction des déchets.
Donc, standardiser, c'est-à-dire qu'on va citer les marques, que ce soit une bouteille d'Orangina, de Pepsi ou de Sprite, ce serait
la même bouteille. Oui. Donc ce serait le remploi des bouteilles d'une part de boissons, donc ce soit oui alcool ou sans alcool, eau minérale, soda, lait pourquoi pas aussi. Et après on peut aussi imaginer le réemploi pour les contenants alimentaires, notamment dans la restauration et la vente emportée qui a explosé avec le confinement, où on aurait des contenants réutilisables qui circuleraient indépendamment de leur contenu. Et c'est ça vraiment l'idéal parce que aussi le consommateur quand il achète un produit, il paye très cher l'emballage. Et notamment sur une bouteille d'eau, le prix de la bouteille, c'est 90% de l'emballage.
Dans les fast-food, le fait qu'on impose d'ailleurs la vaisselle réutilisable, on est en train de sortir un petit peu de cette logique d'usage unique, hein, d'emploi unique.
Tout à fait, oui. C'est bien l'objectif parce qu'aujourd'hui, on produit trop, qu'on n'est pas capable de gérer. Et donc, il faut revenir à la simplicité, le réemploi, en fait, tout simplement, de la vaisselle, des emballages. Parce que 46% de tout le plastique produit est dédié aux emballages. Donc, en fait, on dédie énormément de
46% du plastique produit est dédié aux emballages.
Oui. Donc c'est quand même un volume qui est énorme et qui se retrouve dans l'océan, parce que les bouteilles plastiques et leurs bouchons, ça fait partie des 10 déchets qu'on trouve le plus souvent sur les plages.
Bah, vous me l'enlevez de la bouche. Reportage sur les plages de Sable-d'Olonne en Vendée. Juliette Poirier, Frédéric Grinchec.
Oui, leur ennemi numéro un, le plastique.
C'est plein de petites billes, en fait, et C'est difficile à attraper.
Parce qu'après, ça pollue la planète et...
On mange du poisson, mais la plupart, ils mangent du plastique au final. Donc, c'est pas... Nous, c'est aussi pour nous, pour notre santé.
Si chacun en fait un petit peu, au final, on avance tous, quoi.
D'après les associations environnementales, en Europe, chaque année, 160 000 tonnes de ces plastiques se retrouvent dans les océans. Un véritable fléau.
On retrouve ces petites billes vraiment partout, sur tous les littoraux du monde entier, qui sont à la fois constitués des GPI, des granulés plastiques industriels, donc la matière première de l'industrie plastique, et puis également tout ce qui est microplastique, c'est-à-dire des plastiques plus importants qui ont été détruits, fragmentés par leur séjour en mer.
Alors ils viennent d'où tous ces plastiques qu'on retrouve sur les plages? Ils viennent de la mer, hein, voilà.
Non.
De l'océan?
Non, ils viennent de l'intérieur des terres. 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de l'intérieur des terres. Donc c'est à terre qu'il faut agir. Et là, l'exemple qu'on a eu, c'est que la matière première du plastique, donc sous forme de granulés plastiques ou paillettes, etc., c'est une énorme source de pollution. Et en fait, il y a des fuites tout au long de la chaîne de production, que ce soit dans les usines, durant le transport terrestre par camion, transport maritime par conteneur, dans les centres de recyclage, dans les centres de transformation pour pouvoir après produire tous les produits plastiques.
C'est quoi? C'est le vent qui emporte le plastique
Pour que ça arrive dans l'océan?
Oui,
c'est soit il y a des absences dans certains pays de traitement, de mode de traitement des déchets, donc en fait tout part dans la mer. Soit quand on a des modes de traitement des déchets, on a beaucoup de déchets sauvages et tout ça par ruissellement, vent, tout ça se retrouve dans l'océan et on a énormément de déchets. Et une fois que ces plastiques sont dans l'océan, ils vont y rester un moment, ils vont couler,
se dégrader en microplastiques, et pour une autre partie, en fait, revenir sur les plages. Mais quand on fait des collectes de déchets, qu'on analyse les déchets qu'on retrouve sur les plages, c'est vraiment pas pour la majorité les gens qui ont fait un pique-nique sur la plage. Hein. C'est vraiment des déchets qui nous reviennent, qui ont été dégradés par le sel, par la mer. Et pour les granulés de plastique, vu que ça flotte et que c'est très léger, en fait, ça revient énormément sur les plages. On en a sur toute la côte bretonne, atlantique, et c'est une vraie pollution qui, pour le coup, n'est pas du tout le fait d'un consommateur, puisque c'est la matière première du plastique, donc c'est vraiment les producteurs qui le mettent sur le marché et qui ne garantissent pas les pertes de ces granulés, donc, ouais, qui sont transportés dans des sacs, des énormes sacs plastiques qui se percent hyper facilement, qui n'ont pas du tout les modèles de prévention pour la manipulation de ces granulés. Et en fait, tout autour des sites de production, on a aussi énormément de fuites de ces granulés. Et ça va venir contaminer...
Il y en a pour combien de siècles ? 400 ans, on dit, le plastique ?
Ça dépend de la taille du plastique et ça dépend du milieu dans lequel il se trouve, mais ça peut être de 400 à 1000 ans. Ouais.
Enfin, c'est minoritaire en volume. Hein. L'essentiel, c'est nos fibres textiles qui passent dans l'eau au niveau des machines à laver. C'est 35% en source de microplastiques. Derrière, c'est les microparticules de pneus.
Oui. Les microparticules de pneus ?
De pneus. Ben oui, ça s'use... électrique, diesel, à gaz, tout ce que vous voulez, hein, quel que soit le véhicule, microparticules de pneus, c'est 28%, je crois, 35% les fibres textiles, ouais. Et ça, ce que vous dites, c'est un volume important, mais c'est rien à côté du reste. Et c'est pour ça que la loi impose en 2025 des machines à laver avec des filtres qui vont retenir les microparticules synthétiques. Après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce que les filtres auront retenu. Voilà, parce que si c'est pas trié, ça va repartir.
Donc, il faut arrêter de produire du plastique et revenir à des produits naturels pour fabriquer nos pneus, pour fabriquer ou végétal.
Alors, les pneus, on ne peut pas faire grand-chose. Faire déjà des voitures moins lourdes, des SUV électriques qui ont un critère 1 qui pèse 2 tonnes et demie, vont générer beaucoup plus de microparticules qu'un vieux diesel qui n'aura pas le droit d'aller en ZDF. Enfin, bon, c'est un autre problème. Mais c'est déjà, est-ce qu'on doit laver un pull qui sera de toute façon passable au bout d'une journée ? Est-ce qu'on doit le laver 3 fois par semaine ? On lave en moyenne un pull ou un pantalon 3 fois par semaine. Ça n'a aucun sens. Voilà, on peut réduire aussi assez facilement notre pollution.
Et ça rentre évidemment dans la chaîne alimentaire, avec des dégâts qu'on mesure plus ou moins.
Enfin, je vais essayer de rassurer les téléspectateurs, notamment la personne interviewée. On trouve déjà du PCB, des métaux lourds et plein de polluants organiques persistants dans les saumons, dans les poissons. Ouais. Donc du plastique, un peu de plus ou de moins, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ça incite à, si vous voulez éviter de vous intoxiquer complètement, ne mangez surtout pas ces poissons contaminés au barbecue, sinon vous allez aggraver votre cas.
Oui.
Ah oui. Non. Alors après, il y a effectivement une contamination microplastique qui n'est pas simplement dans les poissons. En fait, ces microplastiques ne disparaissent jamais. Donc en fait, ils intègrent tout. On en retrouve aujourd'hui, il y a des études qui prouvent qu'on retrouve des micro- et nanoparticules de plastique dans le sang. Oui. Dans le corps humain, dans notre sang, dans notre placenta, dans nos selles. Donc en fait, on mange, on ingère du plastique, soit directement, soit après, il y a aussi une contamination extérieure. Et ces plastiques, ils contiennent effectivement des polluants organiques persistants, des produits chimiques, et également des perturbateurs endocriniens. Et donc ces perturbateurs endocriniens, par effet d'accumulation de... Parce qu'il y en a dans les plastiques, mais il y en a dans plein d'autres choses autour de nous. Ils vont avoir un impact sur la santé humaine. Donc finalement, on a une contamination. Ce plastique qu'on produit et qu'on consomme au quotidien, il va nous impacter.
Et on sait pas. Alors, il n'y a pas de fatalité, en tous les cas. On peut vivre sans plastique. C'est peut-être pas facile, mais le sac plastique qu'on avait dans les supermarchés, eh bien, désormais, on a appris à s'en passer et à venir faire ses courses avec un cabas ou un caddie, son petit... Voilà. Encore que, vous allez voir, ce n'est pas si simple de se passer définitivement du plastique. Vous voyez ce reportage de Carole Guyon.
Chariot à roulettes, sac en papier, panier ou encore cabas réutilisables, près de 6 ans après l'interdiction des sacs en plastique, ont-ils vraiment disparu de nos étals ? Avez-vous totalement changé vos habitudes ?
Le monsieur l'emballe dans un papier et moi je mets dans mon caddie. J'ai de quoi les transporter, c'est parfait pour moi, il n'y a aucun souci.
J'ai changé mes habitudes.
Vous mettez le sac en plastique dans votre sac
Le sac en tissu, voilà exactement.
Parce que ceux-là, c'est clair qu'en général, ils vont pratiquement directement à la poubelle après.
Lors du changement de loi, les commerçants ont dû investir dans des sacs autorisés jusqu'à 2 fois plus chers que les anciens, car impossible selon eux de totalement s'en passer.
Je pense qu'on va mettre encore quelques années à ce que ça rentre un peu dans les mœurs. Il y a encore des gens, malheureusement, qui font leurs courses sans sac. Et on ne peut pas ne leur dire, voilà, vous repartez avec vos paquets dans les poches. Donc on se doit aussi de fournir, malheureusement, ce service-là.
Parmi les sacs plastiques qu'on retrouve encore aujourd'hui en France, il y a ceux-là en plastique épais qui doivent porter la mention réutilisable. Il y a ceux-là en plastique plus fin qui doivent porter la mention compostable, qui sont en partie composés de matières végétales. Ces deux sortes de sacs sont autorisés en France. Et puis, Il y a ceux en plastique fin sans aucune mention. Illégaux, ils ne devraient plus être distribués. Des sacs contrefaits ou importés, bien moins chers pour certains marchands qui seraient encore très nombreux à les proposer. Sur ce marché à Lyon, la pratique est courante.
Oui, ils sont interdits ceux-là. On arrive encore à en acheter, il y en a partout.
Les sacs, on les achète à 2 euros le petit rouleau, là. Un marchand ambulant qui passe ici.
Vous savez qu'ils sont interdits ?
Moi, je sais, quoi.
Et vous avez déjà été contrôlé ?
On a eu des gens qui sont passés pour nous dire que la loi nous interdit de les utiliser. On leur a expliqué qu'on avait des stocks et qu'on était obligé de les finir.
Les contrevenants risquent pourtant jusqu'à 15 000 euros d'amende. Les clients, eux, ne sont pas toujours très au fait de ce qu'on leur donne.
C'est interdit, ça, aujourd'hui.
D'accord. Et toi ? Moi, j'étais persuadée que c'était du papier maïs.
Sinon,
17 milliards de sacs en circulation en 2015. Impossible de savoir exactement combien aujourd'hui. Mais dans les océans, ils affectent encore près de 700 espèces marines. Et depuis 6 ans, selon cette association, on n'en retrouve pas plus, pas moins non plus.
Alors Frédéric Dan, et c'est pas facile de se désintoxiquer du plastique. Est-ce que le papier, les sacs papier ou en maïs, là, sur la solution ?
Bah oui, si le bilan écologique est convenable. Si vous faites un sac en maïs, mais que la production du maïs a généré une destruction des sols, des pesticides, etc. Si votre produit réutilisable nécessite d'être lavé, d'être reformé, etc. avec une consommation d'énergie. Le meilleur des plastiques, c'est celui qu'on jette pas, c'est celui qu'on va utiliser, réutiliser. Donc c'est bien joli de faire des sacs réutilisables, c'est bien joli de faire des emballages, notamment dans le e-commerce, réutilisables en autre chose, mais encore faut-il les réutiliser. Et tout dépend de nous, encore une fois. En moyenne, je crois, un sac réutilisable n'a un bilan écologique favorable qu'après 7 réutilisations, donc 7 trajets chez le même primeur, par exemple. Est-ce que tout le monde le fait ? Je ne sais pas. En tout cas, il faut se méfier des solutions de remplacement. Quand je vois les emballages alimentaires plastiques remplacés par des emballages en amidon de maïs, j'ai sérieusement un doute, notamment sur les microparticules d'amidon de maïs qui vont passer dans les alimentations et qui risquent de nous contaminer. Donc le réutilisable, oui, mais encore faut-il réutiliser. Il faut s'y tenir, il faut le faire.
Elder de Oliveira, on se rend bien compte que ce qui en fait, est problématique, c'est la notion d'usage unique. Hein, du sac à usage unique, même s'il est écolo, le fait qu'on le jette. Quand même, il y a des choses qui changent. Il y a quelques années, on avait tous le café dans des gobelets en plastique avec la touillette en plastique. Maintenant, on se retrouve tous aux toilettes en train de laver son... comment ça s'appelle ? Sa tasse, quoi. Est-ce que quand même, il y a... en fait, il faut sortir de cette habitude de l'usage unique ?
Oui, il faut retrouver l'habitude d'avoir des instruments durables, hein, l'idée de produire un plastique qui va vivre quelques minutes, quelques heures, et qui ensuite va durer pendant 400 ans. 400 ans, c'est la construction de Versailles. Nous, ce qu'on laisse comme Versailles, c'est du plastique un peu partout dans le monde.
C'est des pailles qui vont traîner dans l'océan.
Des pailles ou tous les plastiques, puisqu'on a bien vu dans votre reportage que c'était les microplastiques qui venaient de tous les plastiques, quoi. Pas seulement des pailles. Les pailles, c'est la partie... c'est plus qu'émerger l'iceberg. Donc, retrouver des instruments qu'on peut utiliser tous les jours, qu'on n'a pas besoin de jeter, plastique ou carton, parce qu'en carton, souvent, il faut aussi un film plastique sur les cartons pour qu'on puisse mettre des liquides à l'intérieur. Donc, c'est des habitudes à retrouver et peut-être éviter de remettre sur le marché, justement, tous ces produits qu'on appelle à obsolescence programmée, puisque par définition... Un emballage, il a une vie très très courte, emballage perdu, on disait tout à l'heure, c'est de l'obsolescence programmée, autorisée si j'ose dire.
Donc il faut apprendre à moins jeter, y compris ce qui peut nous paraître écologique. Figurez-vous qu'à partir de l'année prochaine, la mairie de Rennes va interdire aux habitants d'amener en déchetterie la pelouse, quand on a tendu sa pelouse, l'herbe, le surplus d'herbe. Vous allez voir pourquoi. C'est un reportage qui m'a stupéfait de Gilles Lemorvan et Vincent Barre.
Petit lotissement au sud de Rennes. Pour Philippe, c'est la première tonte de l'année. Ses déchets de pelouse, d'ordinaire, il les amène en déchetterie. Mais il vient d'apprendre qu'à partir de l'an prochain, ce ne sera plus possible. Ainsi en a décidé la métropole.
Où est-ce qu'on va mettre nos déchets, nos herbes tondues ? On n'a pas de solution. Déjà, ils nous demandent de mettre des épluchures de patates, de carottes pour mettre dans le compost. Mais on va devenir comment ?
Chaque année, sur 30 000 tonnes de déchets verts collectés sur l'agglo, 30% sont des tontes de pelouse amenées essentiellement par des particuliers. Leur interdiction à partir de 2024 n'arrange pas non plus Olivier. Je me suis déjà mis un peu au compost, va-t-il dire à l'élu chargé des déchets. Mais là, ça peut devenir compliqué.
J'ai un jardin qui fait à peu près 600 mètres carrés au moins de pelouse. Au bout d'un moment, ça va.
En fait, les tombes de pelouse, vous avez vraiment un trésor avec vous. Les pelouses, sont des véritables ressources qu'on peut garder dans son jardin. Il faut savoir que c'est à peu près 70-80% composé d'eau. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on déplace des masses d'eau sur le territoire, alors qu'on peut pailler, on peut faire de la gestion différenciée dans son jardin en le déposant au sol, on peut tondre qu'une moitié du jardin et alterner. En fait, il existe tout un tas de solutions.
Pour aider les habitants à valoriser eux-mêmes leurs déchets, la métropole promet de la pédagogie et des aides sont aussi à l'étude pour s'équiper de kits mulching ou favoriser l'utilisation de broyeurs. Pour s'adapter au réchauffement, aux sécheresses, il va falloir, nous dit-on, changer les habitudes, tondre moins souvent et plus haut.
L'idée, c'est de favoriser la biodiversité dans les jardins, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de jardins qui deviennent quasiment stériles, avec des tontes à 3 cm, 5 cm. Et donc, effectivement, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, on estime que c'est un bénéfice pour l'environnement et pour le jardin, pour la vie du jardin.
L'an prochain, la capitale bretonne sera la première grande métropole de France à interdire les tontes de pelouse en déchetterie.
En fait, Frédéric Denré, si on va au bout de ce sujet, on a l'impression que passer la tondeuse le samedi matin pour avoir une belle pelouse impeccable, c'est être un mauvais citoyen.
Ça fera plaisir aux voisins.
Bah voilà, ça fait du bruit et ça fait du mal à la nature.
Mais ça rejoint une discussion qu'on a vue sur ce plateau il y a une semaine ou 10 jours. Arrêtez de tondre trop bas votre gazon quand il fait chaud, parce qu'il faut laisser de l'ombre au sol de façon à ce que le sol ne s'assèche pas. Puis effectivement, c'est de l'eau, le gazon, donc ça coûte cher. En fait, c'est une question de coût, je pense. Ça coûte cher à la ville de Rennes de transporter quelque chose qui est lourd, qui peut rester sur place. Après, je ne me prononcerai pas, je ne connais pas le dossier. Mais oui, il y a des pratiques. Bah, ça rejoint ce qui sera en place. Je pense qu'Elder en aura plus à dire que moi, au 1er janvier 2024, sur l'obligation qu'auront les communes de recycler les déchets organiques, les déchets compostables. Je ne sais pas comment ça va se faire. On est tenu un peu partout. Ben, moi, je vois chez moi à Brunois dans l'Essonne, on sera tenu de composter chez soi ou d'avoir des poules si on a du terrain. Bon, ça ne va pas être pratique à appliquer partout, ça.
Elder de Oliveira, pour le coup, dans les années 70, c'est vrai qu'il y avait des décharges, on balançait n'importe quoi. Est-ce que l'accès aux déchetteries va devenir de plus en plus sélectif, voire de plus en plus coûteux? On a vu ce René, là, il est bien dépité et il est bien embarrassé parce qu'on lui dit l'année prochaine, vous ne pourrez plus amener vos résidus de pelouse.
La question des déchets verts est une question un peu perverse, puisque, effectivement, si on a un jardin, on doit pouvoir gérer les déchets de son jardin. Plus il est grand, plus on a de déchets et plus on a de l'espace pour pouvoir les gérer correctement. Et les collectivités, il y a une trentaine d'années, ont commencé à offrir un service pour récupérer ces déchets verts, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient dans la poubelle résiduelle. Donc ils se sont dit, on va offrir un service plus intelligent pour composter ces déchets verts. Sauf qu'ils ont retrouvé une partie des déchets qui étaient dans ces poubelles résiduelles, mais aussi beaucoup d'autres déchets que les gens, jusque-là, géraient très très bien dans leur jardin. Et donc là, on s'est aperçu au bout de 30 ans que ça n'avait pas beaucoup de sens et on est en train de rétro-pédaler. Et en plus, il y a des considérations de gestion du jardin, de gestion différenciée et écologique des jardins.
C'est-à-dire
qui montrent,
il faut avoir un jardin
vivant,
saillant, ouais, vivant où il y a la vie des différentes espèces et on rase
de l'ombre,
le green anglais,
de l'eau.
C'est plus du tout.
Voilà. En tout cas, le green anglais sur des très grandes surfaces,
le golf, ça
n'a pas de sens. Le golf, c'est un problème aussi en gestion de l'eau. Voilà. Donc, en matière de déchets verts, on est vraiment dans une logique de rétro-pédalage parce qu'effectivement, parce qu'on transporte de l'eau, on transporte finalement de la matière organique qui devrait rester dans le jardin. Il n'aurait jamais dû quitter la terre puisqu'on essaie de les faire y retourner, mais on organise un retour à la terre avec des bennes, avec des plateformes de compostage, autant qu'il y reste dès le départ. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi de la prévention des déchets. Ensuite, les déchetteries, elles ont déjà des systèmes de quotas aujourd'hui pour éviter qu'il y ait trop d'apports dans les déchetteries, mais ça peut poser un problème en termes de dépôts sauvages. Voilà.
Et donc, voilà, c'est ce que j'allais dire, Diane Beaumenet, Johannet, plus la législation se durcit, par exemple l'interdiction d'aller dans les déchetteries déposer ces résidus de pelouse, plus on va avoir la tentation mafieuse de dépôts sauvages. Vous en parliez tout à l'heure, il y a eu à Villejuif là, une déchetterie sauvage qui est apparue. On va voir, on a des images qu'on va peut-être devoir passer en off. 40 000 tonnes de déchets qui sont apparues pendant le confinement. C'était des professionnels du BTP qui se sont dit « allez hop », et puis une fois qu'il y en a un qui commence à déverser, etc. Est-ce que là aussi, alors on voit apparaître la notion d'écocide, est-ce que là aussi la traque de ces mauvais comportements va être plus aiguë?
Alors, on espère effectivement qu'il y aura plus de contrôle pour lutter contre les décharges sauvages et tous les dépôts sauvages. Mais on espère aussi que les producteurs vont moins produire et donc arrêter de mettre sur le marché une fois de plus des produits dont nous, consommateurs, en fait, on ne sait pas quoi faire à la fin. Donc, il y a toujours ce même enjeu de il faut réduire ce qu'on produit et effectivement mieux trier derrière. Mais il faut que tous les produits qu'on mette sur le marché, ils soient effectivement possibles de les recycler, de les trier. Voilà, de les réparer, de les remettre à la terre. Et en fait, c'est ça qu'il faut réellement changer aujourd'hui. C'est notre modèle de production pour pouvoir avoir un impact sur notre modèle de consommation et que nous, consommateurs, on ne soit pas en fait responsables de tous les produits qui sont mis sur le marché. Parce qu'on a entre les mains en fait, des produits que nous, on n'a pas fabriqués et qui se retrouvent ingérables derrière.
Sortir du « j'achète, je consomme, je jette », hein, c'est ça la triptyque. Et ben justement, il faudrait apprendre à réutiliser nos objets plusieurs fois dans l'électroménager. On est obligé maintenant, ça s'appelle la réparabilité, de pouvoir réparer nos appareils. Regardez ce sujet de Michel Perrier et Jean-Jacques Buty.
Faire réparer ses appareils électroménagers plutôt que de les jeter. Dans les allées de ce magasin, certains ont déjà le réflexe.
Quand un appareil est en panne et qu'il est en bon état et qu'il me donne satisfaction, si c'est réparable, je fais réparer systématiquement.
Il y a un indice de réparabilité. Et moi, je suis assez sensible à ça, d'autant plus que je bricole. Donc, pour moi, c'est un avantage.
Mais pas toujours évident de trouver la pièce détachée. Aujourd'hui, les fabricants la conservent 5 ans. Pour inciter à réparer davantage, la Commission européenne veut aller plus loin. Dans 3 ans, pour du gros électroménager comme un lave-linge, vous pourrez vous procurer les pièces pendant 10 ans. Pour les objets dont la technologie évolue très rapidement, comme les smartphones ou les téléviseurs, les composants seront disponibles pendant 7 ans.
Et Elder de Oliveira, et ça c'est vrai que pendant très longtemps, on s'apercevait que acheter neuf, ça coûtait moins cher qu'appeler un réparateur qui va vous dire une fois sur deux, bah non, allez, il faut l'acheter là, votre machine.
Mais c'est toujours le cas, et c'est ça le nœud du problème. Même si on a des pièces détachées, si c'est plus cher de réparer que d'acheter neuf, ça ne va pas fonctionner. Et là encore, comme dans plusieurs de vos reportages avant, on se base sur des gens très motivés, des gens qui vont réparer, qui font du compost, qui nettoient les plages. Mais à côté de ça, vous avez une grande masse de personnes qui sont pas motivées. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas se baser seulement sur la bonne volonté, mais d'aller au-delà et de faire des choses massives pour gérer l'ensemble de ces déchets. Et je reviens juste une seconde sur les déchets de chantier que vous évoquiez juste avant, les déchets du bâtiment. Il y a une bataille, mais une discussion depuis des années entre les professionnels du bâtiment, les collectivités et les pouvoirs publics pour organiser un nouveau dispositif. Et ce nouveau dispositif est en train de se mettre en place. C'est une filière bâtiment avec un maillage de déchetterie gratuite pour les professionnels du bâtiment qui vont être mis en place là dans les prochains mois, parce que ça devait être au 1er janvier, ça a été un peu reporté. Et ce qui va permettre à tous ces gens qui jettent les déchets de façon sauvage d'avoir un exutoire gratuit pour eux et qui est financé par les metteurs sur le marché de tous ces déchets. Donc, les choses commencent à bouger aussi de ce côté-là.
Responsabiliser les producteurs, hein, c'est ce que vous disiez, et offrir des solutions pour ne pas tomber dans la facilité de la décharge sauvage. Frédéric Dan, on dit souvent que c'est par la technologie, l'innovation, qu'on se sortira des problèmes environnementaux qui se posent à nous. On a l'impression quand même, depuis le début de cette émission, que là, pour le coup, il faut revenir à la mode de vie de nos grands-parents. On ne jette pas sa télé, on la répare, et on fait de la consigne si on veut se racheter une bouteille de soda ou de vin.
Non, mais c'est les deux. La technologie, s'il n'y avait pas la technologie, on aurait encore plus de déchets parce qu'on n'arriverait pas à les trier et à les valoriser. Mais oui, c'est avant tout du comportement. Par exemple, il y a des techniques pour retirer, pour filtrer les résidus de peinture dans l'eau. Ça coûte très cher. Mais il y a une autre technique, c'est de ne pas laver ses pinceaux dans l'eau, par exemple. Et il y a une réponse à ça. Tous les peintres le font. Voilà, on balance, on lave ses pinceaux à l'eau. Moi aussi, je l'ai fait. Et puis il y a un truc tout simple qui est inventé par une start-up, c'est une espèce de desseuse à salade que vous branchez sur le courant, qui vous extrait toute la peinture et qui vous la récupère de tous vos pinceaux. Et puis ensuite ça part en déchetterie contrôlée, voire c'est renvoyé au fabricant de peinture. C'est tout bête, ça vaut 50 euros, je crois.
Mais il faut un peu se forcer. C'est le patron de Veolia qui disait « polluer, ça coûte pas cher. Faire attention, ça coûte cher ».
Oui, mais on est dans la société de l'absence totale de frustration. On est dans une société de service. Je veux un truc, je l'ai tout de suite, sans me poser de questions. Sans me poser de questions sur d'où ça vient, d'où ça part, son coût pour les autres. Ben voilà. On paye en ce moment la facture, on voit la facture de cette société d'absence de frustration, une société un peu adolescente qui consomme sans réfléchir. Après, moi, j'en fais partie, hein, je ne donne pas de leçons, je suis comme les autres.
C'est vrai qu'on a tendance à donner des leçons. Est-ce que néanmoins, les consciences évoluent ?
Oui.
Oui, les consciences évoluent.
Mais, et les gestes ?
Et les gestes aussi, après, plus lentement, effectivement, mais il y a cet enjeu de... Effectivement, on est dans une société de surconsommation. Et repenser, en fait, ce modèle de consommation, c'est compliqué. Parce qu'on a eu...
On veut tous le dernier smartphone à la mode.
Oui, hein. Mais on a aussi que de la publicité qui nous dit que pour être bien dans la société, il faut avoir le dernier smartphone à la mode. Ou il faut tondre sa pelouse parfaitement. En fait, il faut aussi repenser notre société et se reconnecter au vivant. Et est-ce que ce n'est pas plus important de replacer l'homme au centre de la société, pas au-dessus en tant que consommateur, de « je peux tout avoir gratuitement et je jette et je n'ai plus aucune préoccupation ». Donc il y a cet enjeu-là et il y a vraiment une responsabilité de qu'est-ce qu'on nous donne et donc des producteurs qui mettent sur le marché.
Voilà, sortir de ce triptyque « j'achète, je consomme, je jette ». Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.